Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Sylviane Agacinski, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Canal Académie. Vous avez prononcé la conférence inaugurale des rendez-vous de l'histoire dans le cadre magnifique du château de Blois, où se réunissent des dizaines de milliers de personnes chaque année au mois d'octobre. En 2009, le thème portait sur le corps dans tous ses états, un sujet au carrefour de toutes les époques et de l'actualité. Notre radio, Canal Académie, s'est fait l'écho de votre conférence inaugurale, disponible bien sûr sur notre site internet. Vous êtes l'auteur d'un essai intitulé « Corps en miettes », publié chez Flammarion dans la collection Café Voltaire, essai par lequel vous êtes engagé contre la gestation pour autrui à l'heure où le grand débat national sur la révision de la loi bioéthique souleva la question dans les médias, dans l'opinion, sous le vocable plus connu des mères porteuses. Et plus largement, vous menez une réflexion sur la place du corps, sur la protection de la dignité des personnes, des femmes qui ne sont pas des outils vivants, dites-vous, vous insurgeant contre une forme moderne d'esclavage, peut-être validerez-vous le terme, d'exploitation qui se dessine derrière une certaine forme de science, derrière la technique, derrière peut-être ce qui représente la barbarie à visage humain dans l'avenir. Alors d'abord justement ce terme d'esclavage, d'exploitation, est-ce qu'il est excessif ou est-ce qu'il correspond à une angoisse profonde, Sylviane Agacinski ?
Correspond certainement à une angoisse profonde. Et il est peut-être un peu excessif ou du moins gênant dans la mesure où on a intérêt à la fois à rassembler des choses qui se ressemblent. Donc on a parlé d'esclavage à propos de la traite des femmes dans la prostitution. On a parlé au fond de formes nouvelles d'esclavage. Et je préférerais dire effectivement des formes nouvelles d'esclavage pour qu'il n'y ait pas de confusion ni avec l'esclavage antique, ni avec l'esclavage des Noirs américains. Je dis aussi forme d'aliénation, forme d'exploitation, et on pourrait dire aussi assez simplement forme de servitude. Je crois que ça me conviendrait assez bien.
Je me permets d'entrer brutalement dans le sujet. Est-ce qu'il y a aliénation, esclavage, dès lors qu'on est consentant? Et là, je fais allusion évidemment aux mères porteuses.
Ah, vous mettez alors directement, il faut le dire,
à chaud,
le doigt sur l'une des grandes oppositions aujourd'hui par rapport auxquelles on a à se situer, c'est-à-dire... D'une part, est-ce qu'il y a aliénation de soi-même, par exemple dans la gestation pour autrui, voire dans la prostitution? Et deuxièmement, quelqu'un peut-il consentir à sa propre aliénation, à sa propre exploitation, voire à sa propre dégradation? La question se pose. Et je crois que dans Corps en miettes, je souligne ce qui doit être souligné, c'est-à-dire l'écart entre la liberté et la dignité, le respect de la liberté et le respect de la dignité, et par ailleurs, la solidarité aussi entre la dignité et la liberté, parce que j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un paradoxe, pour ne pas dire un oxymore, à parler du consentement à renoncer à sa liberté. Autrement dit, la liberté peut-elle s'exercer en consentant à sa propre aliénation? Je crois qu'il y a là plus qu'un paradoxe. Je crois qu'il faut être très vigilant à l'égard de cet argument constamment répété par tous ceux qui s'inspirent au fond d'une idéologie, je dirais, ultra-libérale ou libérale radicale et libertaire, et qui disent « ben oui, même s'il y a dégradation, même s'il y a exploitation, même s'il y a aliénation, je dois pouvoir être libre de faire ce choix ». Et quand on les pousse dans leur retranchement, pardon pour ce pluriel un peu général et anonyme, au fond, ils n'ont plus d'arguments à ce moment-là pour objecter le principe d'une loi par rapport, par exemple, à la vente d'organes. On va dire, si un jeune Indien vend son rein, il est dans la misère, il a la liberté de vendre son rein, alors la loi ne dit rien. Eh bien là, ils sont coincés, si je puis dire.
Autrement dit, la liberté justifie tout dès lors que celle-ci répond aux besoins du marché, en fait, dans la conception de ce que vous dénoncez.
Dans cette conception d'un libéralisme radical, on aboutit à cette conséquence qu'il n'y a aucune limite au marché dès l'instant que quelqu'un consent. Et je peux consentir à me vendre, même si c'est dégradant, même si ça porte atteinte contre notre prodroit, là, hein, même si ça porte atteinte à mon intégrité physique. Pourquoi pas, comme ils disent tous, hein, si je suis consentant? Et là, je crois qu'on doit se référer tout de même à la jurisprudence, que ce soit la jurisprudence française ou celle de la Cour européenne des droits de l'homme, en tout cas de la Cour de cassation en France et des droits de l'homme.
En 91?
Non, là, je pensais au cas du lancer de nain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux problème juridique du lancer de nain. puisque des personnes de petite taille, comme on dit maintenant, s'étaient insurgées contre cette espèce de sport, entre guillemets. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a eu des championnats du monde de lancer de nains en disant non, c'est contraire à la dignité d'un individu d'être ainsi lancé. Et finalement, le droit avait tranché en disant « mais non, on ne peut pas consentir à quelque chose qui porte évidemment atteinte à la dignité des personnes et qui touche aussi toutes les personnes semblables ». Bon, alors là, on a un cas typique de conflit entre la dignité et la liberté. Vous n'avez pas le droit de consentir à votre propre indignité en acceptant ce traitement. Mais moi, j'irai plus loin dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la contradiction de la liberté à s'aliéner elle-même. Donc, consentir à renoncer à sa propre liberté, ça me paraît très grave. Et d'ailleurs, tout le droit du travail, le progrès du droit du travail va dans ce sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise, dans une période de chômage. Le droit du travail ne permet pas d'engager quelqu'un en lui disant « mais voilà, vous allez travailler dans des conditions dangereuses pour votre santé, voire éventuellement humiliantes, 15 heures par jour ». Il ne peut pas entrer dans ce contrat. Donc, vous voyez, c'est un principe très général que la loi protège, effectivement, ceux qui sont les plus faibles, non seulement économiquement, mais éventuellement psychologiquement, que ce droit, donc, les protège de marchés que moi j'appelle des marchés voyous, que d'autres théoriciens ont appelés des marchés du désespoir, lorsque je n'ai plus rien à vendre, est-ce que je peux vendre ma substance organique, mes cellules, mes tissus, mes organes ?
Alors, où réside votre inquiétude, puisque en France, la législation protège la dignité des femmes en particulier et interdit les mères porteuses pour aller vite.
La législation française a été extrêmement prudente, rigoureuse, conforme aux principes de l'éthique et du droit et du respect de la personne et de son corps dans la formulation des lois dites bioéthiques de 1994 et de 2004. Je pense que, en dehors peut-être de l'anonymat des dons de gamètes, il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette législation. Le problème étant aujourd'hui la révision de ces lois dites bioéthiques qui devaient intervenir en 2009, mais qui interviendra probablement en 2010, et le fait que ait été remis ou remise à l'ordre du jour la question de la légalisation de la gestation pour autrui, dite aussi des mères porteuses en France.
Pourtant, le gouvernement se montrait extrêmement réservé sur la question. Il n'y a pas eu un moment dans ce débat vraiment où on a pensé que la chose allait être admise, que les choses allaient se déverrouiller, non ?
Alors, on a vu pas mal de contradictions. C'est-à-dire, d'un côté, je n'ai pas l'impression que le gouvernement y ait été favorable, et notamment pas la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. D'un autre côté, d'autres ministres se sont prononcés très explicitement en faveur de cette légalisation, Nadine Morano, oui. Par exemple.
Elle a même dit qu'elle porterait l'enfant de sa fille.
Oui, ce qui était bien léger quand même. C'était bien léger parce que les anthropologues nous expliqueraient qu'il y a là un risque très évident et plus qu'un risque de relation à connotation incestueuse, avec un imaginaire incestueux. Par ailleurs, les parlementaires semblent prudents, réservés, notamment à la majorité actuelle. La gauche ne s'exprime pas énormément sur cette question, comme si elle était embarrassée, je ne sais pas pourquoi.
Vous ne l'expliquez pas ?
Je l'explique en partie par des tendances peut-être que j'appellerais libérales-libertaires, qui sont assez inquiétantes, et aussi par une inattention, par un aveuglement au problème social que représenterait une telle pratique. Et pour terminer sur les politiques aujourd'hui, évidemment, ce qui m'a le plus inquiété, c'est le rapport du Sénat, la commission du Sénat, sur la révision des lois bioéthiques et spécialement sur ce qu'ils appellent la maternité pour autrui, rapport qui a été publié, et une commission dirigée par Michèle André, donc une sénatrice socialiste, et qui semblait au fond écouter davantage les sirènes d'un discours généreux pour ne pas dire sirupeux, et qui se montrait, encore une fois, tout à fait aveugle à la situation du corps dans le monde, et notamment du corps des femmes, et à ce marché du corps de très grande ampleur, dont je reprends et dont je développe l'analyse dans Corps en miettes. Et vous comprenez bien qu'il n'est pas possible de dire simplement, mais là il faudrait revenir au détail de cette question, on ne peut pas dire simplement non, les mères porteuses ne seront pas rémunérées, il s'agira d'un simple don, d'abord parce que don de quoi ? Qu'est-ce qu'on donne ? On ne donne pas son utérus, on donne un enfant, finalement. Alors, le droit français, donner un enfant, ça pose de monstrueux problèmes. Et d'autre part, on ne peut pas dire « on ne rémunère pas, c'est un don gratuit comme un don de gamète ». Encore une fois, comparaison extrêmement critiquable. Et dire d'autre part « mais oui, mais on ne peut pas demander à une femme de vivre pendant 9 mois en portant un enfant et en le donnant sans lui donner un dédommagement, dit-on, une indemnité ». Et cette indemnité, au fond, c'est un terme qui masque un certain prix.
Donc, la réalité du marché.
Donc la réalité du marché qui, partout dans le monde, que ce soit dans les pires conditions comme en Inde, dans des conditions extrêmement délicates, comme dans les pays de l'Est, ou dans des conditions un peu plus confortables, médicalement parlant, dans certains États américains, tout le monde dit indemnité, dédommagement, etc. C'est le masque du prix, masque du salaire. Oui, et d'ailleurs, le travail sur les mots a été très important dans mon livre.
Alors, Sylvia Nagasinski, est-ce que vous êtes davantage choquée par le fait qu'il s'agit d'un marché, par cette marchandisation du corps? Ou en soi, est-ce que le principe du don en tant que tel, si on devait écarter tout principe de rémunération, est-ce que cela vous conviendrait en soi par principe, le sujet de la mère porteuse pour répondre au désir d'enfant?
Oui, c'est une question très difficile.
Tout argent mis à part.
Voilà, le don et la pensée du don, qui est une pensée très difficile, c'est un problème très complexe. De quoi s'agit-il avec le don? Depuis Marcel Mauss, nous savons qu'il n'y a jamais de don sans contre-don. Que donner, ça s'accompagne toujours d'un certain rendu. Et même dans le don d'organes entre vivants, qui est limité dans notre droit à un don infrafamilial, on peut donner à ses enfants ou à ses frères et sœurs, par exemple. Même là, les problèmes psychologiques que ça pose, la dette morale que cela implique, posent des questions. Mais laissons de côté, si vous voulez, cette question de dette morale et parlons du don tel qu'il existe, comme le don du sang, le don du lait, le don de cellules ou de tissus, par exemple. La générosité et la beauté du don est incontestable. Il serait tout à fait déplaisant, de ne pas croire à la possibilité du don et à la réalité du don. Simplement, et notre droit, justement, s'est appliqué à vérifier la logique du don, qu'il y avait bien don. Or, pourquoi ne peut-il pas y avoir purement don dans le cas de la gestation? Le droit français se garantit contre la perversion du don de plusieurs manières, soit par l'anonymat des tissus, etc. Ça n'est pas le cas des mères porteuses. Jamais, nulle part, l'usage d'une mère porteuse ne se fait de manière anonyme. Soit, deuxième cas, par justement le don affectif qui est du coup infrafamilial. Je peux donner parce que ce sont mes enfants et on est sûr que ce ne sera pas un marché. Je peux donner parce que ce sont mes frères et sœurs, mon frère ou ma sœur, donc on sait que ça ne sera pas un marché. Ça ne peut pas être non plus le cas des mères porteuses, je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons évidentes, malgré la naïveté de certains. Vous imaginez bien, porter un enfant pour sa fille, c'est quand même faire un bébé avec le sperme de son gendre, pourquoi pas pour sa mère aussi, qui n'aurait plus d'utérus, etc. Là, alors, tous les anthropologues et les psychanalystes font barrage et disent « Non, attendez, là, c'est pas possible, on ne parle pas sérieusement ». Donc, comme ça ne peut être ni anonyme, ni familial, eh bien, forcément, ça implique cette forme, ne serait-ce que de contre-don, mais sous forme d'indemnité, qui devient l'habillage d'un prix, qui peut dissimuler aussi tous les dessous de table.
Ça implique un contrat.
Ça implique un contrat.
Un contrat rémunéré.
La Commission du Sénat récuse le mot contrat et parle de convention. Bon, mais en fait, c'est pas très loin. Mais dès l'instant qu'on indemnise, comme les Anglais, prenez le Royaume-Uni qui encadre effectivement la gestation pour autrui, elle parle de dédommagement. Eh bien, ils font des calculs très précis. Par exemple, ils se disent, c'est une femme, la plupart des femmes qui font ça, souvent, n'ont pas d'emploi. Elles sont chômeuses, elles n'ont pas de spécialité, elles n'ont pas fait d'études. Mais à supposer qu'elles en aient un, on va dire, si elles travaillaient, elles gagneraient un salaire de temps. Comme elles ne travaillent pas, on va compenser leur salaire, plus les frais médicaux, etc. Donc, on voit bien qu'on est tout de même dans une logique salariale. Et du coup, la question, c'est toujours, qu'est-ce qu'on rémunère aussi dans ce cas tout à fait unique de la gestation? Parce que le gros problème, c'est qu'aussi, on n'a pas de point de comparaison.
Bien sûr.
Porter un enfant, ça n'est pas donner des cellules, ça n'est pas non plus donner un organe, comme dans le don d'organes entre vivants ou le don d'organes post-mortem.
C'est un service.
Alors, certains disent effectivement, pour essayer de classer la chose, c'est un service, mais si on dit que c'est un service, on voit déjà la chose à travers un filtre, je dirais, et un langage fonctionnaliste, voire professionnel. Ce que fait un peu le mot de gestatrice, un petit peu comme pour la prostitution, et qu'on me pardonne cette comparaison qui peut paraître choquante tellement...
Oui, vous l'avez faite depuis le début d'ailleurs.
Oui, mais je ne suis pas la seule à la faire. Porter un enfant n'a évidemment rien à voir avec rendre un service, entre guillemets, sexuel dans la prostitution. Il n'empêche que dans les deux cas, on a bien un marché du corps, on a bien une négation du désir de la personne qui vend le service au profit de l'achat de tel ou tel désir du côté de celui qui l'achète. Donc, on a bien un marché du corps.
Sylvia Nagasinski, c'est tout à fait passionnant ce que vous expliquez. D'ailleurs, je renvoie à votre conférence inaugurale. On reviendra sur certains aspects d'ailleurs, comment le corps entre dans l'histoire, quel rapport on doit avoir avec toutes ces mutations, en quoi cela change-t-il notre conception du corps. J'avais une question sur le fait que, vous insurgez contre la gestation pour autrui, mais ça fait quand même, grosso modo, je synthétise à gros traits, une quarantaine d'années depuis les années 60 qu'on a bien dissocié la sexualité du corps, de la procréation en soi. et qu'on peut faire une utilisation libre de sa sexualité, de son corps, qu'on n'est plus soumis à des conventions, à des interdits religieux, et qu'il y a tout un courant de politique en France, des mentalités qui ont soutenu, et je pense que vous appartenez à ce courant-là, qui a soutenu l'émancipation de la femme à travers l'émancipation de son corps et cette dissociation, procréation, sexualité. Est-ce que ce n'est pas la conséquence, les mères porteuses, de ce mouvement que vous avez soutenu? Et est-ce que vous n'êtes pas piégée, en fait, par le soutien que vous avez apporté à une évolution des mentalités il y a déjà une quarantaine d'années?
Je crois que c'est tout de même extrêmement différent. La liberté sexuelle, effectivement, celle de la femme, mais celle aussi des hommes, dans une certaine mesure. Parce que la contraception, tout le monde y trouvait un intérêt, oui. La contraception, voire l'interruption volontaire de grossesse, bien sûr, ont déconnecté, vous le disiez, la sexualité de cet automatisme ou de ce mécanisme, en quelque sorte, d'arrivée de l'enfant lié à la sexualité. Ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, je vais vous dire pourquoi, c'est que les psychanalystes qui ont en consultation notamment des femmes pour des questions de stérilité, d'infertilité, s'aperçoivent que le désir d'enfant, c'est très différent de la demande d'enfant ou de la commande d'enfant par fabrication, par institut technologique interposé. Le désir d'enfant, pour les femmes, il est assez complexe. Et la difficulté, le problème ou le piège qui s'est trouvé mis en place par la contraception, c'est que dès l'instant qu'une femme utilise la contraception, son désir d'enfant est bloqué a priori. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en situation de savoir, elle décide que bon, je n'aurai pas d'enfant, il n'arrivera pas. Vieux statut de l'événement de l'enfant qui arrivait, et qui arrivait logiquement en fonction d'une certaine vie sexuelle, d'une certaine relation sexuelle et amoureuse. Avec la contraception, cet enfant ne peut même pas être désiré, donc dit je ne peux pas l'avoir, il ne peut pas arriver, je ne peux pas le désirer. Et bien des psychanalystes, notamment dans ce livre qui s'appelle « Malaise dans la procréation », ont montré qu'un certain nombre de stérilités venaient du fait que ce désir était a priori bloqué et que si on peut désirer des relations sexuelles sans désirer des enfants, l'inverse est beaucoup plus compliqué et que le désir d'enfant est tout de même lié au désir de l'autre, au désir que j'ai d'avoir un enfant avec quelqu'un, pour autant du moins que l'enfant n'est pas un produit de consommation, on ne désire pas un enfant comme on désire une voiture ou un appartement. Et là, il y a quelque chose sur quoi il faut travailler, sur lequel les psychanalystes travaillent, qui se trouve être de l'ordre du désir en rapport avec le corps. C'est-à-dire la question du corps, avant même de porter sur les biotechnologies et les marchés, c'est aussi déjà celle du désir. Qu'est-ce que ça veut dire que désirer un enfant? On le désire aussi avec son corps. Pour ma part, j'ai tendance à dire qu'on a tort de croire que le désir d'enfant est un désir totalement désexualisé, désérotisé, moi je dirais, ou désensualisé. Je crois que tout ça va tout de même pas mal ensemble.
Mais alors, sur le lien, je me permets d'insister sur le fait qu'il y a eu une émancipation sexuelle et qu'on a autonomisé tout ça. Est-ce que les mères porteuses, ce n'est pas la conséquence logique de l'émancipation de l'individu par rapport à sa sexualité? Un enfant si je veux, c'est un enfant quand je veux, c'est un enfant peut-être de la manière que je veux.
Oui, alors je me souviens très bien de ce slogan des années 70, un enfant si je veux, quand je veux, par lequel, à mon sens, les femmes affirmaient l'identité d'elles-mêmes avec leur corps. Justement, nous ne sommes pas disponibles, nous avons nos désirs, et donc, si nous désirons des enfants, nous les aurons. Si nous ne les désirons pas, nous ne les aurons pas. Donc, il y avait l'ouverture à la liberté, mais en disant notre corps, nous-mêmes. Le slogan américain, c'était « Our bodies, ourselves », notre corps, nous-mêmes. Ça veut dire « je suis mon corps ». À l'arrière-plan, il y avait une philosophie du corps là-dedans, explicite ou pas explicite, mais enfin qui remonte à Merleau-Ponty, « je suis mon corps ». Et j'aime bien dire, c'est vrai que cette identité, d'où le rapport d'ailleurs entre la dignité de moi et de mon corps. Hein. C'est moi qui dors quand mon corps dort, c'est moi qui mange quand mon corps mange, etc. Et c'est aussi moi qui désire. Il y a un rapport entre le moi qui désire, avec ses fantasmes et ses pulsions, et mon corps.
Donc il y a une appropriation quand, du corps à travers
une appropriation,
ce
slogan. C'est-à-dire une reconnaissance de l'identité du sujet et du sujet qui désire avec son propre corps. Mais cette identité du sujet qui désire avec son corps et qui affirme sa liberté de désirer, personnellement, je ne l'entendais pas et je crois que très peu de femmes pouvaient l'entendre au sens du « je suis mon corps », ça veut dire que je peux louer mon corps ou vendre mon corps. Ça, c'est un discours beaucoup plus tardif qui va intervenir dans les années 80-90, y compris d'ailleurs avec des mouvements pour la reconnaissance de la légalité de la prostitution. Vous voyez comme le rapport est étroit en disant « puisque notre corps est à nous, nous en faisons ce que nous voulons et donc nous pouvons le vendre ». Et ce discours a été tenu, je me souviens.
C'est cohérent en soi.
Du mouvement.
Est-ce que c'est cohérent?
Non, ça n'est pas cohérent.
On revient à l'aliénation du départ, ce que vous disiez sur le consentement.
On revient à la différence surtout entre le je suis mon corps et le rapport au désir et à l'identité de moi et de mon corps et de ce qui doit être respecté, avec le statut d'un corps comme patrimoine, qui est tout à fait contraire au droit et à juste titre. C'est-à-dire, mon corps est mien, mais il n'est pas une propriété que je peux aliéner comme une voiture, un bien, de la pierre, un terrain ou tout ce qu'on voudra. C'est-à-dire qu'il est bien par son identité avec moi, mais il n'est pas un bien qu'on appelle en droit patrimonial. Et c'est en ce sens que je ne peux pas le louer ou le vendre. Et c'est aussi pour cela que le droit français fait du don de la substance organique une exception à la règle. C'est-à-dire, je peux donner de mon corps, d'abord dans un but thérapeutique, alors là on revient au problème justement de l'aliénation mais aussi du marché. Pourquoi ne peut-on pas vendre et pourquoi peut-on donner? D'habitude, au fond, ce qu'on donne, c'est
ça
aussi ce qu'on peut vendre.
Tout à fait.
Et souvent, ce qu'on vend, c'est ce qu'on pourrait aussi donner. Or, justement, ça n'est pas du tout la même chose. Et là, il faudrait se référer à Mauss, mais aussi à Marcel Hénaff, dans Le Prix de la Vérité. C'est que le don de soi, quand on donne ses cellules, ou certaines formes de dons et de cadeaux, ne sont pas un don de bien patrimonial. C'est du don de soi, c'est de la générosité qui appelle une reconnaissance, une gratitude, mais certainement pas un prix. Il faudrait faire aussi la différence entre ce qu'on peut donner et ce qu'on peut vendre. Simplement, on retombe sur le problème précédent, à savoir, qu'est-ce que ce serait que donner, certains disent, une gestation, puisque la gestation, ça n'est pas quelque chose qu'on peut diviser. Il faudrait entrer dans beaucoup de détails sur un problème très peu pensé, finalement. Alors, pas du tout par les philosophes, un peu plus par les médecins, mais pas beaucoup non plus par les juristes jusqu'à présent, sur, et c'est l'un des chapitres de mon livre, qu'est-ce que c'est être enceinte? Qu'est-ce que c'est une grossesse? Ça ne ressemble à rien. Qu'est-ce qu'on donne? Ça n'est pas un travail. Je sais bien qu'il y a le mot travail qui intervient dans l'accouchement, mais on me l'oppose parfois. Mais le travail de l'accouchement, ça vient de tout à fait autre chose. Ça vient du mot latin tripalium, qui était un supplice.
Un instrument de torture.
Un instrument de torture, exactement. Et donc, c'est parce que la femme souffre pendant l'accouchement qu'on parle du travail. Et je voudrais juste ajouter ce point. Être enceinte, ça s'apparente à l'existentiel, si vous voulez, à l'existence d'une personne et son existence en totalité, aussi avec son avenir, avec son projet, etc. Il faudrait que je revienne sur la différence entre biologie et biographie ici, qui m'importe énormément. Être enceinte, ça n'est pas un travail ni manuel ni intellectuel. Et ça n'est pas non plus un service dans l'économie de service. Donc, l'une des questions qui se pose vraiment, c'est en quoi est-ce que la gestation peut être traitée soit comme un don, soit comme un travail? Qu'est-ce qu'on donnerait dans ce cas-là? Et ma réflexion me pousse à dire qu'on ne donne pas son utérus, évidemment, on ne donne pas ses cellules, donc c'est l'enfant qu'on donne. Donc, on revient toujours à cette problématique, qu'est-ce que c'est que donner un enfant?
Biographie, biologie, faites la différence?
Oui, parce que quand on demande à une femme de porter un enfant pour une autre, comme si elle n'avait rien à voir avec son sein, au sens ancien du terme, son ventre, comme si elle n'avait rien à voir avec cet enfant qui croit et auquel elle va donner la vie dans un accouchement où elle va prendre des risques, d'ailleurs. On n'en parle pas assez de l'accouchement, on parle beaucoup de la gestation, c'est tout à fait exprès, hein, c'est délibéré. Beaucoup plus gênant encore de parler de l'accouchement.
C'est un terme aseptisant, euphémisant, gestation, alors mais qu'accouchement, ça renvoie à une réalité charnelle.
D'une part, on sépare la gestation, on parle de location d'utérus, qui est déjà pas très joli, et de gestation pour autrui, avec le pour autrui qui donne la dimension altruiste à la chose. Et on ne parle pas de l'accouchement, alors qu'en fait, les deux, évidemment, sont indissociables. Porter un enfant et en accoucher, c'est tout à fait indissociable. Et donc, les risques de la grossesse et ceux de l'accouchement vont ensemble. Mais pour terminer sur biographie et biologie, donc demander à une femme de vivre coupée de tout avenir, de l'avenir de cet enfant, et de vivre un peu, pardon de la comparaison, mais sur un plan purement biologique, en quelque sorte, auquel on ne participe pas avec son propre psychisme, ses propres projets, je trouve que c'est un peu l'animaliser ou alors en faire une espèce de machine, d'où ma comparaison avec le four à pain, par exemple.
Alors, Sylviane Agacinski, je me projette un petit peu. On parle d'une technique, la science étant ce qu'elle est, les techniques avançant extrêmement vite, de l'ectogénèse, le jour où les femmes pourront enfanter hors du sein maternel. Est-ce que, somme toute, la question de la gestation pour autrui ne sera pas définitivement résolue à ce moment-là? Est-ce qu'on ne va pas inévitablement vers cette dissociation finale du corps et de l'engendrement?
Alors, l'idée que l'utérus artificiel pourrait nous sauver de la gestation pour autrui est exprimée, par exemple, Henri Atlan dans son ouvrage sur l'utérus artificiel. Je ne partage pas son optimisme ni technologique ni psychologique. D'une part, parce que, ça il le dit lui-même, il n'est pas totalement certain que l'utérus artificiel soit possible. Des gens comme René Friedman, par exemple, mais d'autres aussi, disent que les échanges sont tellement complexes qu'il n'est pas certain que ce soit possible de faire assurer une gestation en laboratoire. La deuxième question, c'est de savoir si c'est souhaitable, parce que certains pensent que si c'était possible, beaucoup de femmes préféreraient, même Henri Atlan le dit, je le lui ai reproché gentiment d'ailleurs, il dit que beaucoup de femmes préféreraient, au fond, faire leurs enfants en laboratoire, si c'était possible, plutôt que de les porter elles-mêmes. Ce qui me paraît totalement discutable, tant je pense que le rapport entre le désir féminin et le désir de porter un enfant existe tout à fait. La preuve d'ailleurs, c'est que bien des femmes qui n'ont pas d'ovocytes choisissent de se faire transplanter un embryon pour pouvoir porter leur enfant. Et puis l'autre raison, c'est que de savoir, au fond, si, comme les recherches actuelles sur l'épigénèse, autrement dit le développement par-delà la génétique, hein, pendant la grossesse et après, si les recherches sur l'épigénèse ne nous font pas au contraire penser que le développement d'un embryon, c'est quelque chose de très important et qu'il se passe des tas de choses dans le corps de la femme, voire de l'animal, puisque ces études portent évidemment bien sûr aussi sur les animaux, il se passe des tas de choses pendant la gestation, des tas de développements, des tas d'apprentissages, par exemple, je ne sais pas, il y a certaines hormones qui sont produites par la mère qui sont la condition même du développement du cerveau du fœtus. Par exemple aussi, on sait que le fœtus rêve en même temps que la mère. Enfin, le rapport entre le corps d'un fœtus et le corps de sa mère est tellement important et les développements qui ont lieu à ce moment-là sont tellement décisifs qu'on peut se demander, à supposer que ce soit possible, quelle extraordinaire mutation de l'espèce aurait lieu à ce moment-là et quelle, peut-être quand même, absence d'humanité se produirait du côté de l'enfant né dans une machine. Parce qu'au fond, un enfant porté par une femme, il est d'emblée dans un milieu humain. Il entend parler, il entend la musique, il a une mère qui marche, qui court, qui dort, etc. Bon. Donc le fœtus est déjà dans un milieu très caché, certes, mais enfin déjà humain. Alors du point de vue de l'humain et de l'inhumain, des questions compliquées se posent.
Certains pensent que l'enfant en laboratoire pourrait avoir un cerveau plus développé qu'un enfant habituellement né dans des conditions classiques, que le cerveau étant moins comprimé, on pourrait développer l'intelligence à travers ce développement cérébral. Je ne sais pas, peut-être que ce sont des spéculations.
Mais c'est une très bonne question, sauf que tout de même, des anthropologues, et déjà depuis le roi Gourand dans les années 60, il n'y a pas que le cerveau. Il n'y a pas que le cerveau dans l'être humain. Et ce n'est certainement pas que le cerveau qui, d'abord, qui fait notre humanité, déjà. Et ensuite, ce que l'on sait aussi de l'étude de l'évolution même de l'homme, ou comme dit le roi Gourand, de l'évolution vers l'homme, ce qui est beaucoup plus intéressant à constater, montre qu'il y a un équilibre qui s'est constamment fait entre le cerveau des anthropoïdes et leur corps. Il y a un rapport entre l'usage du corps, le cerveau, le développement d'intelligence, la sensibilité, etc. De toute façon, nous ne sommes pas effectivement que des cerveaux et toute la part émotionnelle, toute la part affective qui est si décisive au fond quand même, et dans la sexualité, et dans la naissance, et dans les premiers temps de l'enfance et même après, font penser qu'il ne faut pas non plus ne voir que le développement cérébral pour faire de l'être humain.
On pourrait observer un paradoxe, Sylviane Agacinski, c'est qu'on est dans une société marchande qui exalte le corps. Il suffit de regarder la publicité partout. Il y a d'ailleurs des canons extrêmement stricts qui sont imposés à l'opinion qui regarde la publicité ou les émissions télévisées. Et pourtant, on a le sentiment qu'à travers votre réflexion aussi, on va vers une sorte de barbarie, de servitude, de réification constante du corps, qui est presque, alors je ne sais pas si c'est l'image inversée de celle que les médias nous présentent, mais qui est quand même très effrayante.
Il y a pas mal de contradictions au fond dans notre rapport au corps. Je disais à Blois justement que, au fond, les Occidentaux ont toujours été mal à l'aise avec le corps. Il y a un rapport très ambivalent au corps. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je suis très frappée de voir qu'il y a une sorte de double mouvement d'un côté, et ça se manifeste dans les écrits sur le corps, très clairement. Par exemple, les uns disent « adieu au corps », on est en train de perdre notre substance corporelle, comme David Le Breton. D'autres parlent de l'apothéose du corps, d'une certaine manière, le succès, le livre d'Hervé Juvin, le triomphe du corps. Et en même temps, les deux choses sont vraies. Seulement, il y a un triomphe du corps qui est un triomphe de la raison sur le corps. C'est un triomphe du corps esthétique, d'une certaine manière, plus que charnel. Beaucoup plus esthétique, ça c'est la forme qui doit être de plus en plus parfaite. Le corps fonctionnel qui doit répondre de plus en plus à ce qu'on lui demande, d'où il faut l'entretenir, etc. Mais aussi, et ça c'est ce qui m'intéresse davantage, aussi bien dans Corps en miettes que dans ce que je disais à propos de l'histoire du corps, c'est le corps biologique au sens d'un corps biologisé. C'est-à-dire notre rapport à notre corps devient de plus en plus, de ce côté-là, du côté des biotechnologies, un rapport instrumental. Comme si nous étions par rapport au corps humain, y compris le nôtre, dans une distance utilitaire, instrumentale, celle de l'ingénierie génétique, celle de ce qu'on appelle aujourd'hui, et qui est défendue par beaucoup de gens, anthropotechnie. C'est-à-dire on va fabriquer notre propre corps, et ça va depuis le bodybuilding jusqu'à la fabrication d'enfants en laboratoire, sur commande, avec tri des embryons, encore une fois, génie génétique, etc. Et ce rapport au corps est un rapport de maîtrise la plus absolue possible, mais au passage, et c'est mon hypothèse, je crois que nous perdons la chair. Et en perdant la chair, on perd aussi le désir.
Martin Heidegger, je crois, avait fait le lien entre les chaînes de montage dans les usines qui présentent l'homme sous une forme extrêmement répétitive et totalement soumise à la matière et les camps de concentration, le fait que l'on puisse avoir des usines de la mort. Est-ce que vous faites aussi ce lien, si on peut dire, avec cette technique dévorante qui nous soumet en fait constamment à la matière et à l'utilitaire? Il y a une idéologie autour de cela.
Mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle cette question apparemment limitée de la gestation pour autrui, puis plus largement des biotechnologies et plus largement du marché, nous oblige à nous interroger de manière renouvelée à la rencontre, ce que j'évoque dans Corps en miettes, entre Heidegger et Karl Marx. Ça peut paraître un peu surprenant, on n'est pas habitué à les rassembler, à les rapprocher tellement, et pourtant, ils ont eu, à travers la question de la technique et de l'industrie, des intuitions tout à fait proches sur le fait qu'une certaine modernité était en train de menacer gravement, au fond, le mode d'être, le mode d'existence des hommes. Là, ce serait plutôt le vocabulaire heideggerien, l'être que nous sommes. Et pour Marx, c'était en train de menacer, effectivement, je parle du Marx plutôt des années 40, hein, 1844, des manuscrits de 44, c'est-à-dire où l'homme était pris dans le réseau de la production, non seulement happé dans un grand nombre d'heures de travail exploitées parce que étant obligé de vendre contre un salaire minimal toute sa force de travail, mais allant, et ça c'est dans le Capital, allant jusqu'à être absorbé dans sa vie privée même, avec le but de se reproduire pour faire justement d'autres travailleurs, etc. Comme si toute l'existence au fond du prolétariat et sous-prolétariat était absorbée par une logique de la production et du profit.
C'est une dépossession absolue.
Il y a une sorte de dépossession, et c'est bien aussi dans cette perspective que, jusqu'à présent, dans le monde actuel, et nous avons un temps de travail, nous vendons notre force de travail. C'est vrai, on travaille avec son corps, avec son cerveau, avec ses mains, avec tout son corps. Donc, on vend du temps de travail, on vend des activités que l'on fait avec le corps. Mais néanmoins, et là je me réfère donc à Marx pour cela, la vente d'un certain temps de travail n'a rien à voir avec le fait de vendre sa substance corporelle elle-même, ses organes ou ses cellules. Donc il y a dans cette modernité qui est à la fois la biotechnologie, la chaîne de montage, c'est pour ça que j'ai appelé ça corps en miettes en référence à Friedman, le sociologue, travail en miettes, hein, comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Donc le rapport entre biotechnologie, l'usine, au fond, je vais résumer, l'usine et le laboratoire. C'est comme si l'usine et le laboratoire, et pourtant je ne suis ni technophobe ni contre l'industrie, bien entendu, j'aurais dû le préciser tout de suite, mais l'usine et le laboratoire, petit à petit dominés par la logique du profit, parce que si on met pas la logique du profit, ça marche pas, c'est parce qu'il y a,
c'est
y a cette logique. Voilà.
C'est l'essence dans la voiture.
C'est ça qui oriente, c'est ça qui aimante le tout. Eh bien, la logique du profit aimantant le laboratoire d'un côté, l'usine et la fabrication de l'autre, vont jusqu'à s'emparer des corps eux-mêmes. Et c'est là que la question se pose de savoir s'il y a des limites ou pas au marché et si le marché peut s'arrêter devant quelque chose et donc nous faire éviter, non pas l'économie de marché, parce qu'il y a des gens qui hurlent très fort contre l'économie de marché, on n'en a pas de meilleure, mais une espèce de société de marché où tout serait marchandisé, entre guillemets.
Je terminerai, Sylviana Kaczynski, par une réflexion de Francis Fukuyama dans La fin de l'homme, qui estime qu'on va vers un type d'humanité dissociée, c'est-à-dire une sorte de super-humanité qui mettrait à son service une sous-humanité qui, à travers justement la technique, à travers l'exploitation qu'elle pourra en faire, alors ça peut aller des dons d'organes, des mères porteuses, et à travers, bien sûr, le critère clivant, c'est le moyen dont on dispose pour accéder à cette surhumanité, ferait en sorte qu'on aurait un univers qui ressemblerait un petit peu à la planète des singes, c'est-à-dire avec une sorte de surhomme et des sous-hommes qui seront au service d'une super classe qui pourrait s'offrir justement les moyens de la jeunesse, d'un corps éternel, des enfants qu'on pourrait avoir sur mesure. Tout cela étant évidemment le dénominateur commun, c'est l'argent. L'argent qui permet d'accéder à cette surhumanité.
Oui, mais ça ressemble à de la science-fiction, mais tout cela est déjà vrai, complètement vrai. Il y a déjà, le corps des pauvres est déjà dans le monde, pas partout, mais le corps des pauvres est déjà acheter, utiliser. Je citais tout à l'heure les organes, les reins en Inde, les enfants à qui on vole des organes en Amérique du Sud, les femmes caucasiennes qui vendent leurs ovocytes pour à vil prix, ou les mères porteuses. Donc tout ceci est déjà réel.
Mais pas dans le droit.
Et pas dans notre droit.
Pas dans notre droit, c'est toute la question.
J'aimerais que la France résiste de manière très 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 nette sur cette question et qu'elle convainque aussi tous ses partenaires européens, qui le sont déjà en majorité mais pas complètement, d'aller dans le même sens, dans cette même résistance.
Merci beaucoup Sylviana Kasinski. Corps en miettes aux éditions Flammarion, la collection Café Voltaire. Merci d'avoir été avec nous sur Canal Académie.
Merci.